Excellent réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les lobbies sont-ils en train d'accaparer la manne financière des plans de relance économique? C'est la crainte, en tout cas, de l'ONG Les Amis de la Terre face aux cabinets d'influence qui poussent leurs intérêts auprès du pouvoir.
Des projectiles lancés contre les forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. La scène ne se passe pas aux États-Unis, mais à Paris.
Des incidents ont éclaté hier soir en marge d'une manifestation contre les violences policières et en mémoire d'Adama Traoré, ce jeune homme noir mort après son interpellation dans le Val-d'Oise en 2016. Ses proches veulent faire entendre leur voix en écho à l'actualité américaine.
Alors qu'à New York, l'instauration d'un couvre-feu n'a pas empêché la tenue de nouvelles manifestations.
À la une encore, l'épidémie de Covid-19 qui recule. En France, une commission d'enquête sur la gestion de la crise s'installe à l'Assemblée nationale. Une crise qui pourrait avantager encore plus les maires sortants alors que les listes pour le second tour des municipales ont été déposées hier soir à 18h. Les stratégies d'alliance locale réservent de nombreuses surprises. C'est ce que vous dévoilera Frédéric Seitz dans son billet politique juste après ce journal. Les multinationales ont instrumentalisé la pandémie afin de démanteler les normes sociales et environnementales. C'est l'accusation portée ce matin par l'ONG Les Amis de la Terre qui vient de publier un rapport intitulé « L'épidémie cachée ». Elle révèle l'offensive sans précédent menée par les cabinets d'influence des multinationales donc pendant cette période de crise, Annabelle Grelier.
De tous ces SMS, échanges WhatsApp et entretiens Zoom qu'ils ont eus avec le pouvoir, en saurons-nous un jour quelque chose ? Jamais on ne saura ce qui s'est vraiment passé pendant ces trois derniers mois, déplore l'association qui n'attend rien du dispositif actuel de transparence du lobbying prévu par la loi Sapin 2. Déjà trop peu contraignant, il est inopérant pendant l'état d'urgence. Dans cette situation exceptionnelle, l'ONG dénonce en effet une véritable frénésie d'appels et de contacts entre les acteurs économiques et le gouvernement. Qui pour obtenir des aides, qui pour se voir reconnu le statut de service essentiel pour continuer à fonctionner pendant le confinement, quand d'autres tentent de capter des marchés publics ou encore faire suspendre certaines règles sociales et environnementales. Autant dire que les relations personnelles et carnets d'adresses ont été largement exploités. Le phénomène des portes tournantes, ces hauts fonctionnaires passés au privé ou à l'inverse, dans le public, appelé « pantouflage », ont joué à plein. Tandis que les représentants de la société civile ont été privés, eux, de leurs moyens traditionnels, ne pouvant plus compter sur le relais des députés à l'Assemblée nationale ou de manifestations et mobilisations de l'opinion publique. L'Association de protection de l'environnement demande comme une urgence démocratique la mise en place d'un observatoire indépendant des réponses apportées à la crise. Elle réclame également des règles de transparence plus strictes imposées aux lobbies et aux grandes entreprises recevant des aides publiques.
Les lobbies plus forts que jamais pendant la crise, c'est aussi un article à retrouver en une sur franceculture.fr. Des ONG qui avaient dénoncé le plan de relance d'Emmanuel Macron pour le secteur automobile, le qualifiant de climaticide. Hier, le gouvernement français a validé un prêt garanti de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile Renault donc à surmonter la crise du coronavirus, estimant avoir levé les doutes sur l'avenir du site de Maubeuge. Il est 8h03 sur France Culture. La manifestation avait été interdite par le préfet de police, mais plus de 20 000 personnes se sont rassemblées malgré tout hier soir aux abords du palais de justice de Paris. Des jeunes surtout qui ont répondu à l'appel lancé par la famille d'Adama Traoré qui estime que le jeune homme est mort asphyxié par trois gendarmes en juillet 2016. Assa, la sœur d'Adama Traoré.
Mon frère, il s'est fait tuer le jour de son anniversaire. Mon frère, il est mort à l'âge de 24 ans. Ce combat, on ne le lâchera pas. C'est pour Adama.
Assa, la sœur d'Adama Traoré, le jour où était dévoilée une expertise mettant en cause les gendarmes dans la mort de ce jeune homme noir arrêté en 2016, je le rappelle, de nombreux jeunes étaient présents. Ils réclamaient justice alors que les expertises se suivent et se contredisent, dédouanant ou accablant tour à tour les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré. La manifestation d'hier à Paris a fini par dégénérer, Timur Özturk.
Pendant plus de 2 heures, le rassemblement se déroule dans le calme, pacifiquement. Mais alors que des manifestants commencent à quitter les lieux, une colonne de gendarmes s'interpose. Hilary, pour la première manifestation de sa vie, se retrouve devant leurs boucliers.
On était face à eux, mais on était très calme. On était juste en train de crier haut et fort « Justice pour Adama ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à lancer du gaz lacrymogène. Là, on est derrière eux, on se fait gazer, on est devant eux, on se fait gazer, on est sur les côtés, on se fait gazer. C'était pas le but, en fait.
Dans le cortège, c'est la confusion. Oulfa est séparée du gros des manifestants par un cordon des forces de l'ordre.
Les policiers sont en train de bloquer, et donc du coup, les gens, en fait, savent pas de quel côté partir. Et c'est là où ça commence à être un peu tendu.
Les gaz éloignent la foule, mais elle reste dans les rues adjacentes. Et quand des fourgons de police surgissent sur l'avenue de Clichy, ils sont caillassés. Pour Julien, ce sont les forces de l'ordre qui ont provoqué l'affrontement.
On s'est tous mis un genou à terre pour montrer qu'en fait, on n'était pas là pour la violence, on était juste là pour la justice. Et là, ils nous ont chargé d'un coup. Ils ont commencé à être violents. Bah, tout le monde a répondu par la violence parce que je ne peux pas te laisser faire.
Le calme n'est revenu qu'après 23 heures, alors que les pompiers éteignaient quelques feux de poubelle allumés par les manifestants.
Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé hier ces incidents en rappelant que la violence n'avait pas sa place en démocratie. Plus tôt dans la journée, lors des questions au gouvernement, Christophe Castaner avait été interpellé par la députée de la France Insoumise, Sabine Rubin, à propos de cet adolescent de Bondy en Seine-Saint-Denis, Gabriel, un jeune Rom de 14 ans, grièvement blessé à l'œil après son interpellation la semaine dernière pour tentative de vol de scooter. Christophe Castaner a défendu ses troupes en expliquant que c'est précisément le racisme qui tue et que la police républicaine protège les Français du racisme. Les violences policières, à présent source de nouvelles manifestations aux États-Unis. 60 000 manifestants hier à Houston, au Texas, là où sera enterré George Floyd, cet Américain noir asphyxié la semaine dernière par un policier blanc à Minneapolis. Et le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, a accusé hier Donald Trump d'avoir transformé son pays en un champ de bataille miné par de vieilles rancune et de vieilles peurs. C'était lors d'un déplacement à Philadelphie. Celui qui a passé 8 ans aux affaires tout de même comme vice-président de Barack Obama, Joe Biden donc, a promis de guérir les blessures raciales qui meurtrissent les États-Unis depuis si longtemps.
Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd. On les entend encore à travers tout le pays. Notre pays a désespérément besoin de quelqu'un qui le gouverne. Un dirigeant qui sait reconnaître la peine et la souffrance des communautés qui, depuis trop longtemps, vivent avec un genou posé sur le cou. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Rien ne nous est impossible quand nous agissons ensemble, unis.
Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, traduit par notre correspondant à Washington, Gregory Phillips. De son côté, l'ancien président républicain George W. Bush a lui estimé qu'il était temps pour l'Amérique d'examiner ses échecs tragiques. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues encore hier dans les rues de New York, de Philadelphie, d'Atlanta, de Houston ou de Los Angeles, alors que le Pentagone annonce avoir déplacé 1600 soldats dans la région de Washington. À New York comme ailleurs, la mise en place d'un couvre-feu n'a pas permis d'inverser la tendance. Plusieurs cortèges ont traversé la ville hier. Le reportage de Loïc Loury.
Il est 20h passées, les rues sont à nous, chantent plusieurs milliers de manifestants. Deux cortèges viennent de se rejoindre à Columbus Circle, près d'une tour appartenant à Donald Trump. Le couvre-feu, André, comme tout le monde ici, ne s'en soucie guère. Ce n'était pas nécessaire, ils essayent de nous contrôler complètement, sans raison. Ils n'aiment pas nos opinions, mais qu'est-il arrivé à la liberté d'expression, à la liberté en Amérique ? On est trop nombreux pour eux. Une manifestation à marche forcée entre des boutiques dont les vitrines ont été protégées à chaque barrage. Le cortège, mené par quelques dizaines de cyclistes, tourne à droite ou à gauche. Aux fenêtres du très cossu Upper West Side, des résidents applaudissent ou tapent sur des casseroles. Mickey regarde la manifestation depuis la porte de son immeuble. Je vis juste là, c'est très inhabituel, mais je crois qu'il est temps et je crois que peut-être cette fois, on obtiendra un peu plus d'égalité dans ce pays et peut-être un peu moins de racisme. Le bruit, ça ne me dérange pas, qu'on les laisse tant que c'est pacifique. Soirée aussi marquée par de nouveaux pillages ou par un long face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre à l'entrée du Manhattan Bridge, le bruit des hélicoptères en toile de fond.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Avec le cap des 30 000 morts franchis au Brésil, le coronavirus continue sa progression fulgurante en Amérique latine, alors que l'Italie, l'un des pays européens les plus touchés, rouvre aujourd'hui ses frontières. En France, depuis le début de l'épidémie, 28 940 personnes sont décédées d'après les chiffres de Santé publique France hier. Mais l'épidémie semble reculer alors que l'on aborde la phase 2 du déconfinement, Tara Schlegel.
L'épidémie est bien en voie de régression dans l'Hexagone. L'un des indicateurs les plus frappants est le nombre de malades total touchés par la pandémie et soignés à l'hôpital. Ils étaient encore plus de 21 500 il y a juste 15 jours, une semaine donc après le déconfinement, et ce chiffre est tombé à 16 264 mardi dernier et à 14 028 hier. Ce qui veut dire que la décrue ralentit peut-être un peu, car en gros, il y a eu 5 000 hospitalisations en moins il y a 15 jours et 2 200 en moins seulement la semaine dernière. Mais le chiffre qui importe le plus est le nombre de nouveaux patients hospitalisés. C'est celui qui permet de vérifier s'il y a un vrai reflux. Il est lui aussi en baisse, 226 nouvelles admissions ces dernières 24 heures contre 318 il y a 8 jours et 670 il y a 15 jours. On mesure bien que l'épidémie régresse, mais en même temps qu'elle régresse moins rapidement et qu'elle est donc toujours vivace. Côté service de réanimation, la décrue est sensible, 1253 malades toujours en réa aujourd'hui contre le double il y a 15 jours, on comprend que les médecins soufflent un peu. Dernier élément intéressant, les quatre régions les plus touchées concentrent toujours l'essentiel des malades, 73% des cas, ce qui veut dire que le reste du pays est plutôt épargné, même si, martèlent les autorités, le virus circule partout. Voilà pourquoi il faudrait continuer à appliquer les mesures barrières.
Et un nouveau foyer épidémique inquiète les autorités sanitaires. 129 détenus sur les 329 du centre pénitentiaire de Mayotte. 129 détenus ont été testés positifs à la Covid-19. Alors que l'épidémie régresse dans l'Hexagone, le second tour des municipales s'annonce assez spécial. Entre une campagne sans contact et un risque d'abstention encore plus élevé qu'au premier tour, une question se pose. La traditionnelle prime au sortant va-t-elle se transformer en surprime alors que les listes ont été déposées pour le second tour qui doit se tenir le 28 juin prochain? Les nouveaux venus ont-ils une chance face à des maires sortants placés en première ligne tout au long de la crise? Rosalie Lafarge.
En pleine crise et en plein confinement, Juliette Méadel a suspendu sa campagne à Montrouge, près de Paris. L'ancienne secrétaire d'État et ex-porte-parole du Parti Socialiste est arrivée deuxième au premier tour, derrière le sortant UDI, Étienne Langereau, qu'elle accuse d'avoir profité de la situation.
L'utilisation du bulletin local de la mairie, qui normalement doit relater les événements du mois, cette fois-ci a été un véritable tract à la gloire de la gestion de crise par le maire, qui fait semblant de parler de la crise mais qui fait campagne. C'est une vraie inégalité de traitement.
Et ils sont nombreux, les adversaires des sortants, à dénoncer une forme d'inégalité. Appelés à gérer la crise, les élus en place se sont occupés des livraisons et distributions de masques, de la réouverture des écoles, du maintien du contact avec les personnes isolées. Et sauf là où cela s'est mal passé, les sortants devraient effectivement en profiter, reconnaît le politologue Pascal Perrineau.
Les Français sont satisfaits, même parfois très satisfaits, de la manière dont ces pouvoirs locaux ont pris en charge la lutte contre le coronavirus et ont pallié très souvent les déficits de l'État. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y aura pas ici et là des changements d'équipe, mais que les maires soient de droite, de gauche ou de diverses sensibilités, dans leur immense majorité, tout cela devrait déboucher sur une reconduction.
Surtout qu'un autre phénomène d'ordinaire observé au municipal risque d'être cette année quasiment invisible, le vote sanction, puisqu'il y a aujourd'hui encore très peu de forces identifiées macronistes sur le terrain local.
On avait prévu la claque, ça se terminera en fessé, un macronisme. Après un premier tour décevant pour le parti présidentiel, le second ne s'annonce pas franchement sous les meilleurs auspices. On y revient dans le journal de midi et demi, présenté de nouveau sur France Culture aujourd'hui par Thomas Cluzel. La commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la pandémie du coronavirus se met en place aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le bureau sera désigné avant d'entamer les premières auditions ces prochains jours. Les salles de cinéma rouvriront leurs portes le 22 juin prochain, mais les tournages de films et de séries françaises vont-ils reprendre? C'est en tout cas la volonté du ministre de la Culture, Franck Riester, qui a mis en place un fonds d'indemnisation de 50 millions d'euros, pris en charge par l'État et piloté par le CNC, le Centre National du Cinéma. Ce fonds doit encourager la reprise rapide des quelques 500 tournages qui avaient été interrompus, Yvan Planteil.
C'est en quelque sorte un filet de sécurité pour les productions qui veulent reprendre leur tournage. Ce fonds d'indemnisation ne sera débloqué que si un cas de Covid-19 se déclare dans l'équipe, c'est-à-dire dans les prochains jours. À ce moment-là, le tournage s'arrête et cette aide permettra de couvrir la mise en place du chômage partiel ou encore la location du matériel. Il faut bien comprendre que ce fonds ne prend en charge que les pertes futures. Il ne rembourse pas celles qui ont été subies à cause du confinement. Pour autant, tout ne va pas redémarrer dans les prochains jours. Emmanuel Barrault est le coproducteur de la série Hippocrate sur Canal+. Pour lui, il faut même compter plusieurs semaines avant de se remettre en selle.
On a un objectif, c'est de reprendre le tournage le 22 juin. Ça nous laisse le temps de repréparer. On doit refaire un plan de travail avec les nouvelles disponibilités des acteurs, remettre le décor en état. Il y a des accessoires à racheter. Il faut négocier avec les agents les dates des comédiens. Il y a beaucoup de choses, en fait. Du coup, une préparation pour nous de 3 semaines.
Même chose pour les films. Selon le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, leur caméra devrait enregistrer à nouveau vers la fin du mois.
Quelques mots du temps de ce mercredi 3 juin. Météo plus instable qu'hier avec des orages qui vont gagner une grande partie de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 24 et 28 degrés tout de même du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.